Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission consacrée au cinéma. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure et vous allez pouvoir jouer avec nous un blind test autour des films consacrés à des peintres ou à la peinture. Parce qu'aujourd'hui, Guillaume, tu as choisi de nous parler d'un film japonais.
Oui, un film consacré au peintre Okuzai, donc de Hajime Hashimoto.
Et puis tu auras un autre film.
Alors c'est une autre sorte de peintre, en tout cas c'est un artiste total lui aussi, c'est Mad God de Phil Tippett.
Et puis toi Manu, tu t'es dirigé vers un premier long métrage québécois.
Noémie dit oui, qui contrairement à son titre n'est pas vraiment un teen movie. En tout cas un teen movie mais pas drôle.
Quant à moi je vous parle de Dirty, Difficult, Dangerous de Wissam Sharaf. Mais nous commençons entre canicule et test de grossesse impromptu avec Marine qui nous parle d'un film qui coche toutes les cases du test de Bechdel, c'est Avant l'effondrement.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Ce matin, j'ai reçu une lettre anonyme. Avec un test de grossesse positif dedans.
Paris, la canicule, la pollution qui va avec et Tristan, jeune directeur de campagne d'une candidate aux législatives, auquel Nils Schneider prête sa voix traînante et son ton atypique. Un jour, Tristan reçoit un test de grossesse positif dans une enveloppe à son nom et subitement, son monde s'écroule. Est-ce une tentative d'intimidation alors que les élections s'approchent? Serait-ce une femme qu'il a maltraitée sans s'en rappeler? Serait-ce cette stagiaire avec qui il a eu une aventure, d'ailleurs discutable au niveau de leur rapport hiérarchique? Serait-ce son ex, Pablo, qu'il revoit régulièrement et qui fait appel à des méthodes plutôt archaïques lorsqu'il s'agit de se contracepter? Aidé de sa colocataire et meilleure amie, Fanny, Tristan mène l'enquête, de plus en plus obsédé à l'idée de retrouver la personne qui lui a fait parvenir ce mystérieux test, d'autant qu'une menace plane sur sa vie car Tristan est peut-être atteint d'une maladie génétique rare et incurable qui le condamnerait à mourir jeune. Et pendant ce temps, la banquise fond, les températures montent et le monde, tout doucement, va faire l'effondrement.
J'ai retourné le problème toute la journée, tout est absurde. J'ai couché avec 4 filles dans les derniers mois et à chaque fois, ok, il y a eu un risque.
C'est toi?
Je ferai jamais un truc pareil.
À tous les coups, ce test, c'est une tentative de déstabilisation.
Il m'envoie des menaces de mort.
Ah bah, toi, tu reçois un test de grossesse.
Une aide-soignante qui s'occupe de ton père?
Tristan?
Je suis pas enceinte. Je veux pas d'enfant.
Ah bah, c'est quoi ce déguisement?
C'est pour la pollution.
Et les deux autres filles?
J'ai mené ma petite enquête cet après-midi. J'ai fait un portrait robot de la fille du bar. Pas mal, hein?
Ce premier film d'Alice Zénitaire, que l'on connaissait surtout comme autrice jusqu'ici, est co-réalisé par Benoît Volney, brasse beaucoup de sujets actuels, sans tomber pour autant dans la chronique générationnelle. Il est question d'écologie, bien sûr, de révolution, d'effondrement, de faire des enfants ou non, de vivre à la campagne, de rester en ville, d'engagement politique et de rapport homme-femme. Alors que Tristan lutte pour empêcher à son niveau que le dérèglement climatique ne s'accélère, et que l'effondrement annoncé ne survienne, c'est son monde à lui qui menace de s'effondrer avec l'annonce de cette paternité. Alice Zénitaire vient du théâtre qu'elle a beaucoup écrit et mis en scène. Cela se ressent avant l'effondrement, dans certaines scènes sont proches du théâtre filmé. La direction d'acteurs va en ce sens. Ariane Labed et Nils Schneider forment un duo auquel on n'avait pas forcément pensé et qui fonctionne très bien. On apprécie par ailleurs, car c'est beaucoup trop rare, la belle peinture que le film fait de cette amitié sincère entre un homme et une femme, une amitié qui jamais ne virera à la romance. Autre point de l'écriture du film intéressant, cette scène de joute verbale entre Souheila Yacoub et Ariane Labed qui débattent toutes les deux de politique et plus précisément de la possibilité de faire la révolution. Une scène de débat politique filmée quasiment comme un duel de western dans laquelle aucun homme ne viendra donner son avis ni interrompre le dialogue. Une scène finalement comme on n'en avait sans doute jamais vue au cinéma. D'ailleurs, Zénitaire dit avoir vu cette scène dans laquelle deux femmes parlent de révolution d'évolution et non d'homme, comme une sorte de réparation face aux très nombreux films qui ne passent pas le test de Bechdel.
Ce qui me terrifie, c'est de penser que je me suis comporté comme un type à qui on peut envoyer un test de grossesse anonyme en pensant que c'est une bonne idée.
L'effondrement dont tu parles n'a pas encore eu lieu. Vous êtes tous des déçus de la gauche et vous ne croyez plus à la révolution.
Avant l'effondrement est un film foisonnant avec des ruptures de ton selon ses différents chapitres, ruptures qui s'accompagnent de traitements de l'image différents. Et si c'est une histoire d'amour, de famille et d'amitié, c'est aussi une histoire d'engagement politique. Comme le dit le co-réalisateur Benoît Volney, il y a une responsabilité qu'on pourrait qualifier de morale dans la manière de raconter une histoire, mais également une responsabilité politique qui consiste à prendre en compte les évolutions sociales et anthropologiques de l'époque dans laquelle le film va sortir, dans lequel le film va s'inscrire. Avant l'effondrement est un film multiple qui émeut, interroge, informe aussi, surprend parfois, déroute, un film engageant et engagé, singulier, dont on se rend compte qu'il nous reste plus qu'on ne s'y attendait, un film qui, sous ses dehors parfois un peu maladroit et comique, est habité par la tragédie vers laquelle court le monde et par la tragédie intime de ses personnages. Et mention très spéciale à la jeune comédienne Elsa Gage, que l'on avait découverte dans la série Drôle et qui n'a dans le film qu'une scène, mais une scène merveilleuse de drôlerie qu'elle illumine absolument. Et on espère vraiment que le cinéma va continuer à la solliciter.
Avant l'effondrement est en salle depuis le 19 avril. Après À mon seul désir, encore une plongée dans le monde de la prostitution, et c'est encore une femme qui est aux commandes du film. Nous parlons de Noémie Dioui.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Je sais que j'ai dit oui pour en prendre ma fille, mais je sais plus.
C'est oui ou c'est non, Madame Leblanc?
Non, c'est non.
Avant de dire oui, Noémie exprime une colère salvatrice contre le système, manifestant physiquement des accès de violence incontrôlée. Cette adolescente de 15 ans, au look de punkette portant le t-shirt du groupe, alors fictif, je ne sais pas, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé, The DeLorean Devils, déborde d'énergie qu'elle n'arrive pas à canaliser. Instable et impétueuse, elle vit temporairement dans un centre de jeunesse depuis 3 ans. Son seul souhait est de revenir auprès de sa mère qui, lors d'une audience, exprime son incapacité à recueillir sa fille. En 5 minutes, la jeune réalisatrice, Geneviève Albert expose une situation terrible, celle d'un échec familial, d'un abandon d'une jeune mère incapable d'assumer l'éducation de sa fille. Ce déterminisme social va entraîner de lourdes conséquences. Dans l'impossibilité d'admettre ce refus, la seule issue pour Noémie est de fuguer. Elle rejoint son amie Léa, une ancienne du centre, entourée d'une bande de petits délinquants. Noémie rencontre un jeune gars sympathique de prime abord, Zach, qui s'avère être en réalité un proxénète, manipulateur, jouant sur des sentiments amoureux factices. Il l'incite de manière très habile à se prostituer. Récalcitrante au début, elle va finir par accepter. Résultat, Noémie dit oui.
Je me mets ce vêtement, puis je mets ça par-dessus. Puis les talons, ben, t'aimes si les clients te demandent, mais sinon t'es vraiment pas obligé.
Tout le début traité dans un style naturaliste percutant, hein, caméra à l'épaule, dynamisé par un montage à vif, d'une saine agressivité, ravive les souvenirs des premiers et meilleurs films des frères Dardenne. Noémie est une sorte de Rosetta à fleur de peau qui a davantage besoin des autres pour vivre. Geneviève Albert ne la lâche pas d'un plan collé à ce corps frêle et électrique. Un sentiment d'urgence caractérisé par sa tonicité se dégage d'un film qui embarque le spectateur dans une sorte de teen movie très cru, traversé par une possible lumière. Pourtant, il ne s'agit que d'une impression, d'un trompe-l'œil savamment mise en place par la jeune cinéaste, également scénariste, pour mieux nous enfermer dans un univers sordide. Noémie, aspirée par un environnement toxique créant une dépendance affective, se retrouve escorte, attirée au départ par l'argent facile et surtout la promesse de jours meilleurs. La chronique sociale, saupoudrée d'études psychologiques, se transforme sous nos yeux en une descente aux enfers éprouvante, réponse bien sentie au film de François Ozon, assez démagogue, jeune et joli, qui, par provocation ou inconscience, enjolivait un sujet similaire.
Mais je suis pas une pute.
T'inquiète parce que t'as fait plus de cash que moi.
Tu veux m'appeler
N'importe quelle heure, c'est pas grave.
Le récit oppressant ne laisse aucune échappatoire. Hein, dans un décor blafard d'un hôtel déshumanisé, hein, pendant un grand prix de Formule 1, les clients défilent les uns après les autres dans la chambre de Noémie sans se poser de questions ni sur son âge ni sur ses motivations. Par un carton, ils sont numérotés avant leur arrivée. Ce sont des hommes ordinaires qui ont troqué leur conscience pour quelques moments de plaisir. Alors les choix de mise en scène structurés autour de la répétition confrontent le spectateur aux insoutenables scènes de prostitution qui n'ont pas besoin d'être explicites. Hein. Il est évident que la réalisatrice s'est posé une vraie question de cinéma sur la représentation. Comment filmer le plus objectivement possible des scènes de sexe non consenties sans verser dans une imagerie racoleuse ? Alors la nudité quasi hors champ alterne avec des plans très composés, laissant apparaître une partie des corps, créant une immersion malaisante délestée de tout voyeurisme. Geneviève Albert adopte dès lors un style résolument clinique et même austère, hein, rappelant le cinéma assez rare de Lodge Kerrigan, hein, celui de Claire Dolan, sur le plan esthétique. Le réquisitoire est implacable, Noémie dit oui, révèle l'enjeu véritable, celui d'une dénonciation sans appel, alors sans aucune ambiguïté, hein, de la marchandisation des corps, du consentement imposé par un système patriarcal qui n'a toujours pas remis en cause que ce que certains nomment encore le plus vieux métier du monde. Par son dispositif un peu répétitif, Noémie Dioui s'avère parfois inutilement démonstrative dans son traitement discursif, là où certaines images se suffisent à elles-mêmes. Hein. Il s'agit d'un film à charge contre la prostitution, motivé par la hargne d'une réalisatrice engagée, posant un regard très pertinent sur un fléau qui ravage beaucoup de jeunes femmes. Une œuvre forte et indispensable, remarquablement interprétée par Kelly Dépault, qui parvient à faire passer toute l'ambivalence d'un personnage à la fois déterminée et vulnérable, butée et influençable. Alors autour d'elle, tous les autres comédiens apportent une authenticité à ce premier long métrage québécois radical qui se clôt néanmoins par un petit rayon de soleil.
Noémie dit oui, de Geneviève Albert est en salle depuis le 26 avril. Dans mon bureau, j'ai la version stylée de Obé. La vague d'Okusai a durablement marqué le monde de l'art. Voici un biopic sur le peintre. Nous en parlons dans Cinérama.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Si l'image de la grande vague d'Okusai est connue chez nous, l'histoire de l'homme derrière cette œuvre et son œuvre de manière plus générale l'est beaucoup moins. Alors un peu d'histoire pour commencer, issue du dossier de presse. Katsuhira Okusai donc, est né en 1760 dans les quartiers populaires d'Edo, donc l'ancien nom de Tokyo, et montre très tôt des dispositions pour le dessin. C'est en 1831, à l'âge de 70 ans, qu'il publie son chef-d'œuvre Les 36 vues du mont Fuji, série d'estampes de paysages née de ses nombreux voyages à travers le Japon, et dans lequel on retrouve le plus emblématique de ses travaux, la grande vague de Kanagawa. Alors, fermement ancré dans l'imaginaire collectif et de la pop culture comme l'un des symboles les plus évidents de la culture japonaise, elle est à bien des égards représentative du style unique d'Okusai et de son apport à l'art japonais et européen. Donc, véritable bourreau de travail, Okusai meurt à l'âge de 89 ans en laissant derrière lui plus de 30 000 dessins. Alors, or, comme je l'ai dit en introduction, la grande vague est, si je peux dire, l'arbre qui cache la forêt. Le film de Hajime Hashimoto a l'ambition d'être en quelque sorte un Okusai Begins, c'est-à-dire de raconter l'histoire de l'homme avant l'artiste, l'homme derrière l'artiste, et de la transformation de l'homme en artiste complet. Si on pouvait se poser la question de faire un nouveau film sur Okusai et sa célèbre vague, alors il y a déjà eu par exemple le film d'animation Miss Okusai en 2015, le film, découpé en chapitres, balaye cette question en s'ouvrant sur une scène forte où l'incursion d'un raid se termine sur un douloureux auto-da-fé. Alors précédé d'un texte expliquant la particularité des productions artistiques de l'époque, le contrôle sévère exercé sur leur gestation et sur les réprimandes violentes qui pesaient sur elles, on comprend que le film peut être vu aussi comme un prétexte pour s'appuyer sur son sujet, pour parler de notre époque où il n'est pas forcément plus facile de créer sans se faire montrer du doigt ou se faire mettre au banc d'une société. Alors forcément, l'œuvre maîtresse d'Okusai, la fameuse vague, est une métaphore toute trouvée pour dépeindre le tempérament d'un artiste rebelle qui ne se fie qu'à son instinct et à sa vision. Nature contre culture, l'image serait presque trop simple si elle n'était pas vraie et que son impact continue aujourd'hui. Et ce n'est pas une fin en demi-teinte qui revoit surgir l'intolérance d'une façon très violente qui pourra nous faire changer d'avis. Oriental ou occidental, le spectateur recollera les morceaux à la lumière des actions passées de ces derniers siècles et, malheureusement, en particulier de ces dernières années. Alors peu importe que le rythme soit parfois inégal et que l'ensemble ne soit pas toujours passionnant, vu que le schéma est suffisamment connu pour que l'on n'en soit jamais vraiment surpris, il devient alors clair que le film s'engage dans une réflexion sur l'art, ses représentants et, dans une certaine mesure, la liberté d'expression. Les artistes et les personnes à la marge représentent des esprits libres et ceux par qui une réelle profondeur arrive à transfuser les exigences d'une époque pour mieux toucher le grand public. Comme il est dit, n'importe qui peut peindre. C'est ce que l'on y projette et ce que l'on veut en faire qui change les choses et très souvent la donne. À nous, spectateurs, de recoller les morceaux et de nous réapproprier ces œuvres et ce qu'elles peuvent éveiller en nous.
Okusai de Hajime Hashimoto est en salle depuis le 26 avril et ce film, donc sur le grand peintre japonais, nous donne l'occasion de jouer un blind test. Au travers de 5 extraits, il va falloir deviner des titres de films où il est question alors soit d'un peintre, soit de la peinture, mais là c'est plus généralement d'un peintre ou d'une peintre. C'est parti, premier extrait.
Vous ne m'avez jamais dit qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre ? C'est quelqu'un de votre famille ?
Il n'y a personne, monsieur.
Un professeur ? Vous avez pris des cours ?
Non, monsieur.
Mais il y a bien eu un événement dans votre vie, quelque chose. C'est curieux, cette matière. Ce rouge, par exemple. C'est quoi ?
Monsieur, j'ai mes petits secrets. Je les garde pour moi, sinon ce ne sont plus des secrets.
En tout cas, c'est fort, très fort.
J'y vois bien des défauts.
Et c'est trouvé grâce à l'indice de l'actrice.
Et oui, grâce à Yolande Moreau, ouais, c'est Séraphine.
Oui, de Martin Provost, sorti en 2008. Le film met en scène l'histoire de la peintre autodidacte Séraphine de Senlis, de 1912, année de sa rencontre avec le collectionneur Willem Oude, à son internement à l'asile psychiatrique en 1932. 7 Césars en 2009, dont meilleure actrice et meilleur film. Et 821 000 entrées en France pour ce film Séraphine. Deuxième extrait, donc pour trouver des titres de film où il est question de peintre.
La lune brillait de tout son éclat sur Madame Porter et sa fille. Leurs pieds lavés à l'eau pétillante.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Elliot T.S. Eliot. Messieurs, le T.S. Eliot.
Ah, T.S. Eliot.
Vous savez que Gorky a vendu au musée d'art moderne ?
Gorky est une vache. Les gens fourragent, mangent ce qu'ils trouvent et retournent à l'étable en ruminant toujours. Gorky va passer des heures devant un Picasso et ensuite il retourne dans son atelier et recrache ce qu'il a vu, mais qu'il aille se faire voir.
Mais il excelle dans cet exercice.
Oui, il est excellent, mais il faut dépasser ces trucs-là.
Que pensez-vous de Klein ?
Klein, c'était un rigolo.
Picasso ?
Dépassé.
Alors ça a été trouvé.
Et c'est donc Pollock de Ed Harris.
Oui, film de 2000. Là, il s'agit de la vie de l'artiste américain d'après-guerre Jackson Pollock, évidemment, qui s'est fait connaître du grand public par sa peinture abstraite. 58 000 entrées en France seulement pour ce film, gros bide. Mais Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Et puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ed Harris réalise mais interprète aussi le rôle de Jackson Pollock. Troisième extrait de ce blind test consacré aux peintres au cinéma.
L'exposition n'a pas suscité autant d'intérêt que l'avait promis Breton.
Pablo Picasso.
Les artistes mexicains ne sont qu'une curiosité exotique ici. À vrai dire, je me sens très seule. Et je brûle d'avoir des nouvelles du pays. Diego, cette lettre est un mensonge. Paris m'a beaucoup apporté. Mais sans toi, ça ne veut rien dire.
C'est trouvé.
C'est Frida de Julie Taymor.
Oui, film sorti en 2002 avec Salma Hayek. Le film retrace la vie mouvementée de Frida Kahlo. Le film se concentre également sur les relations tumultueuses de Frida avec son mari, le peintre Diego Rivera, et sur sa liaison secrète et controversée avec Léon Trotsky. 406 000 entrées en France pour ce film. Quatrième extrait de ce blind test.
On va déjeuner dehors. Ce sera prêt dans un quart d'heure.
Voilà, c'est toujours pareil. À Nenem, ma mère et ma sœur n'arrêtaient pas de m'emmerder, de m'interrompre pendant que je travaillais. Tout ça pour aller avaler leur saloperie de bouffe hollandaise. Ma mère criait, c'est tout froid, ça va brûler. Enfin, ma sœur venait me chercher. Pas un regard à mon travail. Ben, les femmes, il n'y a que la matière qui les intéresse.
Ne soyez pas injuste.
Ma pauvre défunte savait apprécier de grand cœur le travail de ces messieurs, surtout celui de Cézanne qu'elle adorait. Alors, je sentais bien qu'elle souffrait intérieurement de ne me reconnaître qu'un petit talent d'amateur. Enfin, ici, la bouffe, comme vous dites, n'est pas trop mauvaise. Mme Chevalier est la meilleure cuisinière que j'ai connue à part ma mère.
Trouvé.
C'est donc le Van Gogh de Piala.
Et oui, film de 1991 avec Jacques Dutronc que l'on entend là. Il s'agit d'un film biographique romancé sur les 67 derniers jours de la vie du peintre post-impressionniste, tandis qu'il est à Auvers-sur-Oise. César du meilleur acteur pour Jacques Dutronc et 1,3 million d'entrées en France, ce qui est plutôt bien pour un Piala. Cinquième et dernier extrait de ce blind test consacré donc au peintre au cinéma.
Vous êtes un peu un expressionniste primal, pour ainsi dire.
Un primate, vous voulez dire? Genre chimpanzé?
Est-ce que vous vous considérez comme un peintre black?
J'utilise toutes les couleurs, même le blanc.
Et
mais... C'est plutôt créole, je dirais. Ce que j'entends par créole, c'est... C'est un mix entre l'Afrique et l'Europe. Un peu comme un Africain en Haïti parle le français.
C'est le cas de votre père?
Mmh.
Et que répondez-vous à ceux qui vous appellent le négrillon du monde de l'art?
D'où vous sortez ça?
C'était dans Time Magazine.
Ah non, 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 ils ont dit que j'étais Lady Murphy du monde de l'art.
Ah,
c'est pas la même chose.
J'avoue mon erreur. Je suis vraiment désolé.
C'est trouvé.
C'est Basquiat de Julien Schnabel.
Oui, hommage à Basquiat, premier artiste noir à avoir vraiment réussi dans le puissant monde des arts, disparu en 1988 à l'âge de 27 ans. À travers l'évocation de sa vie et de son œuvre, seulement 98 000 entrées en France. Hein. Autant dire que Pollock et Basquiat, qui sont deux artistes majeurs, n'ont pas attiré beaucoup de monde dans les salles, en tout cas en France. Ainsi s'achève ce blind test consacré donc aux peintres au cinéma, puisque nous parlions de Hokusai en salle depuis le 26 avril. Une fable politique nous emmène à Beyrouth avec un couple d'immigrés, c'est Dirty, Difficult, Dangerous de Wissam Sharaf.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Dirty, Difficult, Dangerous, un titre qui apparaît énigmatique et que Wissam Sharaf, son réalisateur, a trouvé sur Internet en faisant des recherches sur les travailleurs migrants. Certains métiers sont rangés donc dans la catégorie Dirty, Difficult, Dangerous ou Demeaning comme dégradant. Il y a donc fortement songé en résonance donc à ces personnages un couple de migrants à Beyrouth. Lui, c'est Ahmed, un réfugié syrien qui espérait trouver l'amour en média, une femme de éthiopienne. Mais cet amour n'a rien de tranquille dans une ville qui a toujours connu la guerre civile, dans un pays qui est en proie à la corruption, en proie aussi avec les inégalités et la xénophobie, et qui s'arrange avec ceux qui veulent trouver un exil sur ces terres. Et il y en a beaucoup qui viennent dans ce pays. Venu de la Syrie dont il a fui les combats, Ahmed s'en sort comme il peut en vendant de la ferraille. De son côté, son amoureuse, Média, est employée chez des Libanais. Elle est dans un quasi-état de servage, condamnée à ne pas bouger, car en vertu des règles en vigueur, elle a dû remettre son passeport à son employeur pour obtenir un visa de travail. Elle passe le plus clair de son temps auprès d'un vieil homme qui frôle la démence, obsédé par Nosferatu, si bien que certaines nuits, il se transforme en créature avide de sang. La servitude n'est pas de tout repos. Alors c'est pourquoi son exil est amoureux. Elle peut s'échapper de temps à autre pour retrouver Ahmed et tenter de vivre un amour. Mais on sent le couple contraint, sans cesse, évoluant dans un monde caractérisé par un déterminisme social, une volonté d'utiliser l'autre non comme une fin, mais comme un moyen. La belle idée de ce film, qui avance doucement, c'est que leur amour, qui paraît impossible, aussi peut leur permettre de se libérer.
Adia!
Fleet, apoteala hunik, shuran armin. Antama futer mimi. Bashakle anna beter mimi.
Sorti mashhoura.
Ahmad, anertan bi ahad.
Habitué pendant longtemps à suivre des conflits armés, notamment pour Arte, Wissam Sharaf n'a pas de mal à caractériser un monde où les rapports de violence et de domination sont prégnants et atteignent les plus faibles qui ne sont pas non plus les plus justes. Il se lance dans une fable politique qui consiste à mettre en scène alors ceux qui ont peu. Il étire sa narration en proposant plusieurs suspensions. D'abord dans le récit, quand le couple parvient à trouver une astuce pour résider dans un hôtel luxueux, ou la damnation d'Ahmed qui, à mesure que le film avance, lui qui a été est blessé par un éclat d'obus, eh bien, se transforme peu à peu en homme de métal, en quasi-cyborg, l'effet de pouvoir en moins. Dirty, Difficult, Dangerous fait partie de ces films précieux, une douce épopée qui passe par l'absurde, teintée d'un frêle humour pour dépeindre une réalité loin de nous. Il y a un côté Coris Maki qui aurait passé sa jeunesse à Beyrouth. Tu l'as vu, Manu ? Peut-être quelques mots ?
Oui, quelques mots. Alors moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que le couple est étrangement beau, comme si on greffait une love story à l'intérieur d'un film quand même très, très dur, très réaliste. Et puis, avec toutes ces incursions un peu fantastiques, notamment le fait qu'il a une plaque de métal et les passages avec ce vieux bonhomme qui se réveille en pleine nuit et qui joue les vampires pour aller agresser la jeune femme. Et je trouve qu'il y a comme ça des mélanges de tons, de genres qui vont assez bien, en fait.
Alors, fable politique, romantique, et puis avec effectivement des petites suspensions fantastiques.
Et oui, les acteurs sont beaux. Mais c'est assez étonnant dans ce type de film. Je pense que c'est fait exprès. Le contraste un peu avec la laideur du monde, en fait. Et je trouve que ça, c'est une belle idée du film.
Dirty, Difficult, Dangerous de Wissam Sharaf est en solde dans quelques 50 cinémas en France. Un assassin surgit des abysses et devient la victime du monde qu'il est chargé de détruire. Mais oui, malédiction, Mad Dog.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
À tous ceux qui désespèrent et pensent qu'ils prennent trop de temps pour aller jusqu'au bout de leur entreprise, Mad God s'impose comme le remède idéal. Alors idéal déjà parce que lorsqu'on est dans cette situation, on vit en cauchemar éveillé et c'est ce que propose le film de Phil Tippett. Mad God est une plongée sans fond ni phare au sein d'un univers fou, comme si Jérôme Bosch s'était mis à la stop motion plutôt qu'à la peinture, et le tout entièrement centré sur l'affect et le ressenti. Alors âme sensible, s'abstenir car Mad God n'est clairement pas de l'animation pour les enfants, mais aussi pour les esprits fragiles. Mad God est aussi le remède idéal face à cette attente, car il est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour s'accomplir et finir une entreprise aussi complexe et tordue soit-elle. On a l'habitude de parler du development hell, ce trou dans lequel aucun cinéaste ni scénariste n'a envie de tomber, où un film stagne dans les limbes jusqu'à ce qu'il soit enfin mis en branle, si toutefois il l'est un jour. Alors on a l'habitude des vaporware, terme qui désigne dans l'industrie des jeux vidéo des productions qui, suite à de nombreux retournements de situations de production, mettent des années voire des décennies à se faire. Mad God pulvérise tout cela car il aura fallu 30 ans, oui, 30 ans à son créateur pour accoucher de la bête. S'il est coutume dans l'industrie de se méfier des productions à rallonge car elles témoignent en règle générale de graves soucis d'ordre narratif et donc de cohérence interne, il n'en est heureusement pas toujours le cas. Et ici, spécifiquement, le cauchemar proposé n'en est que plus renforcé. Je serais bien tenté de vous faire un résumé du film, mais c'est une tâche bien compliquée. En gros, Mad God va suivre la progression d'un protagoniste au sein d'un univers infernal peuplé de créatures mutantes, de monstres protéiformes et d'une noirceur abyssale. C'est un monde malade qui englobe ce protagoniste pour ne plus le lâcher, et tel Dante franchissant peu à peu les 9 cercles de l'enfer, il va découvrir les particularités d'un décor aussi beau qu'horrible. Le Mad God du titre, c'est en fait Phil Tippett lui-même, créateur démiurge derrière cette folie qui est avant tout surtout connue des amateurs éclairé d'effets spéciaux, car le monsieur est derrière certains des plus gros titres et succès de l'histoire du cinéma de la seconde partie du XXe siècle. Il affiche à son palmarès une participation majeure à Star Wars, Robocop, Jurassic Park, Starship Troopers, etc. Et si Mad God n'est pas son premier essai derrière la caméra, car il est le réalisateur du très oubliable Starship Troopers 2, il est assurément celui qui lui donnera ses lettres de noblesse cinématographique, enfin, à 71 ans. On l'a dit, l'expérience de cauchemar n'en est que plus renforcée grâce à cet accouchement qui aura pris tant de temps, car s'il aurait déjà été un ovni à sa sortie initialement prévue, Mad God en est encore plus un aujourd'hui à l'ère de l'aseptisation la plus totale et du lissage le plus lénifiant. Son récit et son ambiance n'ont rien pour plaire au plus grand nombre, et c'est pour ça qu'il peut justement prétendre à toucher au plus grand nombre. L'expérience est universelle et, à l'image de son créateur démiurge, dont on nous offre ici une plongée en direct dans les ténèbres et de son inconscient le plus torturé, la chose est aussi hermétique que fascinante. Son succès en festival à Réseau, dans lequel le film tourne depuis 2 ans, le prouve, et c'est ce qui a motivé l'éditeur Carlotta à le sortir en salle. Carlotta n'en est pas à son coup d'essai avec Phil Tippett et Mad God, puisqu'il a sorti en Blu-ray DVD le documentaire d'Alexandre Poncé et Gilles Pinceau, Phil Tippett des rêves et des monstres, il y a quelques années, et qui, au-delà du portrait du maître et de sa carrière, nous montrait alors déjà des images du film. Poncé et Pinceau l'avaient déjà sollicité pour les besoins de leur documentaire sur les effets spéciaux Le complexe de Frankenstein et Ray Harryhausen, le titan des effets spéciaux, où il intervenait justement déjà, forcément, dans ce dernier pour parler de stop motion, technique phare utilisée dans Mad God. Tippett, enfin vrai réalisateur édité par Carlotta, une belle boucle qui se conclut ici en salle et qu'il serait criminel de rater.
Mad God est en salle, dans très peu de salles, mais il est quand même en salle en France depuis le 26 avril.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine, nous parlerons du film de Kelly Richard, Showing Up. Et vous avez chacun un film, messieurs.
Alors moi, je vais vous parler d'une sortie DVD Blu-ray, Abattoir 5, un classique de la science-fiction des années 70.
Et moi, je vais vous parler de la dernière production des gens derrière Balles Perdues, qui s'appelle AK.
À la semaine prochaine.